Sortie de boîte. Sortie de boîte, Cédric Adrover.
Vous ne pouvez pas chercher plus de 2 minutes les bureaux de notre invité. Aux côtés d'un célèbre restaurant gastronomique, son entreprise fait la renommée du Noirmont. Alors on passe à travers d'une fourmilière de bénévoles pour le rencontrer. Lui nous accueille, une casquette vissée à la tête. Dans son bureau, des affiches, des photos, un Jéroboam quelque part, des cendriers bien remplis. Par la fenêtre, un grand champ, des tentes en montage. Aucun doute, on est bien au champ du gros. Alors tout de suite, on parle de programmation. Là, pas besoin d'échauffement. Notre invité est passionné. Il nous raconte des anecdotes. Il sourit, nous parle de ses envies. Il est interrompu par quelqu'un qui entre dans son bureau. Tu vas à Rocos demain ? Malheureusement, pas le temps demain. Le champ du gros approche. Dans le bureau, on voit un poêle avec du bois pour nous rappeler que nous sommes aux Franches-Montagnes et que dans ce bureau, on bosse toute l'année. Comme une réponse à tous ceux qui l'abordent dans la rue en lui disant « Mais gros, le reste de l'année, c'est quoi ton métier ?» On va peut-être avoir des réponses dans cette émission. Bonsoir Gilles-Pierre. On parle du champ du gros, donc dans Sortie de boîte aujourd'hui. Je vous ai vu, Gilles-Pierre, vous chassez des Pokémon.
Évidemment.
Ouais, je viens de vous prendre en flagrant délit. Et d'ailleurs, j'ai appris qu'il y avait un Pokéstop au niveau du Noirmont. Le champ du gros qui fête son quart de siècle sur 4 jours, du 7 au 10 septembre. Gilles-Pierre, vous êtes aux commandes depuis le début. 25e édition, ça vous met un coup de vieux ?
Non. Non, il ne faut pas y penser à ça. Ben ouais, c'est vrai que les années passent vite. Je pense qu'elles passent plutôt vite quand on s'éclate. Et puis là, on s'éclate comme des fous. Un rêve de gosse devenu réalité. C'est vrai que quand on en parle avec des amis, on se dit que jamais on aurait pu imaginer un jour de voir le champ du gros grandir comme il a grandi, de voir autant de personnes, de voir autant de têtes d'affiches mettre le feu sur ce terrain. Et du coup, les années passent vite. Mais c'est vrai que quand on fête un anniversaire, on se dit « Oh purée, 25 ans déjà !»
Avec vous, on va revenir sur ces 25 ans, mais surtout sur le business. Le Champ du Gros, c'est un festival, c'est l'occasion de faire la fête. C'est aussi une entreprise, mais on revient juste avant ça, 25 ans en arrière. Vous vous souvenez du moment où, comme un entrepreneur, l'idée a émergé ?
Oui, c'était un apéritif beaucoup trop arrosé. Une équipe de potes, assez passionnés de musique, tous avec des potes qui en faisaient d'ailleurs. On se retrouvait toujours au stand tir où se déroule le festival, parce que là, il y avait des amis qui répétaient là. Et puis, à un moment donné, c'est Marie-Vonne, c'est la Rouge, qui a dit « Tiens, on pourrait monter un festival ». On a dit « Bon, bien sûr, évidemment, allons-y, montons un festival ». Ça s'est fait en 2 semaines, avec un char à foin, avec des groupes locaux. Il y avait 200 personnes, il a flotté toute la journée. Mais c'était cool, on a eu du plaisir, on s'est éclaté comme des fous, et puis on a dit bah, « on va continuer ça ».
Donc si on vous demande dans un séminaire sur l'entrepreneuriat quel est le secret pour créer son entreprise, une soirée arrosée, ça fonctionne ?
Ça peut fonctionner, oui.
On a tous connu des soirées un peu folles où on a des idées, c'est autre chose de concrétiser. Comment on passe de l'idée, du délire à la réalisation ? Ça, on se casse un peu les dents quand même, non ?
Ouais, on se casse les dents et puis il y a pas mal de désillusions. C'est vrai qu'au départ, alors c'est différent parce que là, le champ du gros est parti vraiment en amateur complet avec que des bénévoles. Et il y a un moment donné où on voit que c'est quand même un travail. Parce que les gens qu'on accueille, qui viennent faire un concert, eux, c'est leur job. Et puis, c'est assez drôle hein, parce que si vous regardez un concert et que le concert n'est pas bien, vous allez de toute façon dire « j'ai vu ce groupe, c'était pas bien ». Alors que c'est pas forcément le groupe qui est pas bien. Ça peut être le son qui est pas bien, ça peut être l'organisateur, ça peut être tout un tas de choses qui fait que finalement l'artiste n'a pas pu réaliser son concert dans de bonnes conditions. Mais ça va quand même lui retomber dessus. Et du coup, il y a des exigences qui sont mises et qui sont assez légitimes. C'est assez légitime que un artiste soit accueilli dans de bonnes conditions, mange pas forcément des spaghettis. Et puis après, il y a pas mal de demandes qui peuvent être formulées. Et puis on constate que ces demandes, elles sont importantes. Quand on connaît le business, on va dire, ben voilà, ça on peut faire, ça on peut pas faire, ça on peut faire. Des gens qui connaissent peut-être pas forcément vont pas s'attarder sur le contrat, vont dire tout est ok. Et puis, des petits détails peuvent vite être embêtants. Par exemple, une connexion Internet peut être très embêtant, parce que l'artiste qui vient là, vient pas juste faire cette date, il en fait 30 ou 40. S'il demande une connexion Internet, c'est juste qu'il veut relever ses mails pour préparer la date du jour d'après. Enfin, tout plein de petites choses qui montrent que tous les gens qu'on accueille sont des professionnels et ont besoin d'avoir un certain niveau de confort.
Alors, la structure professionnelle, au niveau, disons, professionnel du terme, avec des salariés, c'est autour de la 10e édition que vous avez un peu professionnalisé la structure. Cette étape-là, elle a été compliquée. On change, on n'est plus le groupe de potes et puis on devient un peu plus une entreprise.
Ouais, c'était pas évident au départ. Il y a des gens qui le comprennent, il y a d'autres qui ne le comprennent pas en disant non, il faut que ça reste complètement bénévole, donc pourquoi tout à coup avoir un salarié ? Ça peut faire des clans, ça peut faire des scissions carrément.
Il y a eu ?
Oui, il y a eu, ouais, tout à fait. Et puis, moi, le pari, c'était assez simple. Moi, je bossais à Bikini Test en ce temps-là, et puis j'arrivais plus du tout à faire Bikini Test et le Champ du Gros. J'ai tout simplement proposé au comité de leur dire, bah voilà, on met une petite masse salariale, on essaye. À la fin du festival, théoriquement, la masse salariale est récupérée largement. Si ce n'est pas le cas, on arrête tout de suite et puis on dit non, il faut que ça reste complètement bénévole. Si c'est le cas, ça démontre peut-être que finalement, quelqu'un qui est payé pour faire ce travail a plus de temps pour faire la programmation, peut économiser de l'argent pour la programmation, prend plus de temps pour aller démarcher des partenaires, développer le festival. Et du coup, ouais, en principe, quelqu'un qui est payé peut rapporter de l'argent.
C'est la 25e édition et ça fourmille en ce moment sur le site, dans les bureaux. Parmi les fourmis, il y a Pierrick Froidevaux, celui qui est avec vous, le seul employé rémunéré à l'année pour le Champ du Gros. C'est un peu le stress là, mais il a pris le temps pour répondre à Jean-Michel Probst.
Sortie de boîte. Une fois le festival passé, on est beaucoup plus détendu parce que voilà, demain est un autre jour. Là, cette année, le mercredi, le festival va démarrer, donc il faut que l'infrastructure soit prête, l'accueil artiste soit prêt, l'économa, etc. Donc tous les départements du festival. Par contre, au contrario d'une entreprise, l'esprit est des fois peut-être un petit peu plus, on va pas dire cool, mais dans une ambiance, voilà, ça reste quand même une bande de copains. Donc c'est clair, nous, on est deux professionnels, mais on s'épaule énormément sur ce comité. Et le fait qu'ils soient, eux, encore bénévoles, ça crée comme une atmosphère qui reste super bon enfant. Et puis, il faut le gérer comme une entreprise.
Il y a des rapports employés-patrons avec Gilles-Pierre ?
Entre nous, disons, voilà, pas vraiment, parce que finalement, on a vraiment nos départements qui sont assez distincts. Et finalement, on se fait confiance l'un l'autre. Et puis, on a besoin finalement de beaucoup discuter l'un l'autre, ne serait-ce pour se réconforter des fois dans les prises de décision. Et puis, il n'y a pas vraiment d'hiérarchie. En tout cas, moi, personnellement, j'en vois pas. Il faudra lui poser peut-être la question. Mais c'est vrai qu'on collabore ensemble pour finalement monter tout ça. Et puis, au même titre qu'avec le comité, qui est complètement bénévole, il n'y a pas forcément d'hiérarchie qui s'est installée. Quoi.
Sortie de boîte.
Ça tombe bien, il est là, Gilles-Pierre. Il n'y a pas d'hiérarchie au Champ du Gros ?
Non, il n'y a pas d'hiérarchie. Alors évidemment, il y a toujours un porte-parole indirectement, et puis il s'avère que c'est un peu moi le porte-parole. Donc forcément, les gens ont envie aussi et besoin de mettre un nom sur un festival. On le voit avec tous les festivals.
Vous l'incarnez quand même.
Voilà, il y a une personne qui incarne un peu le festival. Mais moi, après, un bénévole qui bosse 3 heures est aussi important que moi.
Les décisions, vous les prenez. Au bout d'un moment, c'est quand même vous qui les prenez. Il y a un comité, on est d'accord, mais...
Si c'est vraiment important, qu'il faut vraiment foncer, et puis qu'il s'agit de dire au comité, écoutez les gars, j'ai pas le temps de vous téléphoner pour vous dire que je viens de confirmer les Rolling Stones, c'est assez logique. Maintenant, si c'est un changement important pour le festival, on va de toute façon discuter avec le comité. Ça m'est eu arrivé de proposer quelque chose où j'étais assez convaincu de la chose, et puis que tout à coup ça passe pas, et que le comité me dise non, on pense que c'est une connerie. C'est normal, on va pas imposer ces choses-là. Les gens sont bénévoles, mais donnent énormément de temps, ont même bien plus de mérite que nous, qui sommes finalement salariés pour le Champ du Gros. Eux le font complètement bénévolement, donc je pense que c'est super important. Et puis on n'a pas toujours raison, donc c'est vachement bien de pouvoir prendre l'écoute sur tout le monde et les bénévoles. Donc non, il n'y a pas vraiment d'hiérarchie dans le Champ du Gros.
Il n'y a jamais un côté flou entre on est copains et on est une relation professionnelle ?
Alors, il pourrait avoir un côté flou, mais là, on est vraiment, vraiment très, très potes. Ça fait plus ou moins 10 ans qu'il n'y a pas eu de changement au comité. Et puis, on s'apprécie énormément, on déconne, on fait des fiestas. Et puis, le Champ du Gros, fait qu'on est ensemble. Mais outre le Champ du Gros, il y a vraiment un côté camaraderie et on déconne ensemble. Et il y a pas mal de caractères assez durs. Donc, c'est vrai qu'il y a des comités où ça rigole pas, où on s'engueule même, mais c'est chouette, c'est bien, il y a un débat et il s'enrichit, donc c'est super important.
Dans cette émission, on reçoit des chefs d'entreprise, on parle forcément de leurs produits. C'est quoi le produit du Champ du Gros ?
Le produit du Champ du Gros, la musique quand même. La musique est un état d'esprit aussi. C'est vrai que la musique suffit pas. Il y a peut-être quelques années, ça pouvait suffire de dire on met une tête d'affiche et puis les gens vont venir. Là, je pense qu'avec tous les festivals qui se sont développés, il faut qu'il y ait un état d'esprit, il faut qu'il y ait une carte d'identité. Le Champ du Gros essaie de jouer là-dessus en disant c'est vrai qu'on est au mois de septembre, au Franche-Montagne, à 1000 mètres d'altitude, ça c'est déjà une particularité.
Après, un avantage ou un inconvénient ?
Les deux, ouais, c'est un avantage parce qu'on est hors saison et puis un peu au bout du monde, perdu, un endroit un petit peu improbable pour faire un festival, et puis ça attire, et puis d'un autre côté, bah, c'est vrai que 1000 mètres d'altitude, au mois de septembre, ça caille un peu, et puis ça peut retenir des gens. Et puis après, bon, bah, c'est vrai que il faut quand même qu'il y ait des petits feux, il faut qu'il y ait un prix qui soit abordable, que les enfants ne payent pas jusqu'à 16 ans. Enfin, il ne faut pas, mais c'est des choses qu'on a voulu développer. Il y a des transports qui sont gratuits avec les trains, avec les bus. Il y a une affiche complètement délire de planque et replanque. C'est toutes des petites
tout
choses.
Tout un cadre.
Tout un cadre qui fait que le Chant du Gros, ce n'est pas que de la musique, mais c'est une carte qu'on vend comme ça et puis que les gens apprécient.
Et si on parle de la musique, c'est un produit du Chant du Gros. Alors, on cible des gens avec une programmation musicale, il y a des retombées financières, des questions aussi d'image. Faire une prog, c'est une démarche marketing ?
De temps en temps, oui. Parce que malheureusement, il y a quand même beaucoup de gens à attirer. Et puis les Franches-Montagnes, alors malheureusement, à nouveau malheureusement et heureusement, sont une petite région. Et puis on ne va pas vendre 12 000 billets dans les Franches-Montagnes avec 1 700 habitants en Noirmont, voire 8 000 habitants en Noirmont. On n'arriverait même pas à remplir le festival avec tous les habitants des Franches. Donc forcément, il faut aller de temps en temps un petit peu dans le commercial. Et on le fait parce que finalement, le festival, on ne le fait pas pour nous. Alors on se fait plaisir de temps en temps, disons cet artiste, c'est pointu, c'est vraiment chouette, il faut absolument le programmer ou le faire découvrir, mais on peut pas se permettre de faire que ça. On est obligé de temps en temps de dire, bah voilà, tiens, on va faire plaisir à une certaine catégorie de gens en prenant un Patrick Bruel, on va peut-être faire plaisir aux jeunes l'année passée en prenant un rappeur bien connu. On fait
des compromis, en fait.
Bah, il faut faire des compromis, effectivement. Et puis, faire la programmation, ça ne veut pas dire on va programmer 30 groupes qu'on aime. Il y a des groupes qu'on apprécie, il y a d'autres qu'on apprécie un peu moins, mais on doit faire plaisir à tout le monde.
Un autre aspect de la prog et qu'on retrouve aussi dans les autres entreprises, c'est la négociation. Il faut amener des artistes, il faut négocier avec eux. Ça se passe comment ?
Alors c'est assez drôle parce qu'en fait les artistes n'ont pas un tarif, donc quand on téléphone un agent, il va jamais dire voilà tel et tel artiste ça coûte 50 000 francs, il va dire combien tu m'offres. Donc là il faut faire une offre. Alors, il y a trois possibilités en fait, il y a se planter et proposer beaucoup trop d'argent, et puis là ça se confirme assez rapidement, en principe en un ou deux jours, il dit oui c'est bon, on va le faire. Il y a se planter dans l'autre sens et proposer vraiment trop peu, et là on risque de le vexer et la discussion est finie, même si on y propose 10 fois plus la semaine d'après, il n'entre plus en matière. Et puis après ben voilà, il y a un chiffre à plus ou moins connaître, donc on le connaît avec l'expérience, en téléphonant à d'autres amis, avec d'autres festivals, et puis on essaie de se situer dans une fourchette à 2-3 000 francs près, voire 10 000 francs près suivant les cachets, et puis après on défend aussi son festival, en disant voilà, on est dans une petite région, le prix d'entrée est très bon marché, les enfants jusqu'à 16 ans ne payent pas, ça peut marcher avec les Français, avec les Anglais c'est beaucoup plus dur, on est vraiment dans une relation business, en disant moi, c'est pas mon problème que ce soit bon marché, je veux de toute façon 100, 200 ou 500 000 euros.
C'est quoi l'artiste le plus cher qui est au Chant du Gros ?
C'est le nom ou le prix ?
Les deux.
Ça sera un des deux.
Okay. Alors disons le prix.
Alors c'est 150 000 euros plus ou moins.
Ah oui, quand même. Ouais. 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 Donc on parle vraiment de gros montants, il y a des frais lourds. Si on parle du financement d'un festival, la billetterie c'est à peu près 2/3 du budget, les partenaires 1/3, cette répartition elle vous convient ?
Oui, ça me convient bien. Je pense que c'est important de pouvoir financer le maximum avec la billetterie. Les partenaires, ça peut être très très dangereux. Alors nous, on a de la chance parce qu'on a énormément de gens qui nous soutiennent. Alors pas forcément avec des énormes montants. Il y en a quelques-uns qui participent avec des bons montants, mais la plupart des autres peuvent nous donner 1000 francs ou 2 ou 5 ou 10. Si on en a une multitude, ça fait vite beaucoup d'argent. Et puis du coup, c'est très important parce que si un venait à connaître des problèmes financiers, ça mettrait pas en péril le festival, c'est évident. D'avoir des très très gros partenaires ou des mécènes, s'il y en a un qui part, ça peut vite être la galère.
C'est un risque. Parmi les autres risques d'entreprise plus conventionnelle d'un festival, il y a la concurrence. Vous en avez de la concurrence ?
Oui, forcément qu'on a de la concurrence, parce que faut bien s'imaginer que s'il y a 15-20 festivals en Suisse romande assez importants, ils voudront tous faire les têtes d'affiche qui vont tourner, quoi.
Donc la concurrence, elle est plus envers les artistes qu'envers les festivaliers.
Oui, je pense, parce que en étant assez clair quand même, tous les festivals se remplissent, je dirais quand même, avec le 80% des gens du bassin aux 50 km aux alentours, quoi. Donc tirer d'autres personnes de Lausanne, Genève, ils vont plutôt venir voir une ambiance, ce qu'on essaie de vendre, nous, le chant du gros, plutôt qu'un artiste qu'ils pourront voir à l'Arena ou à Paléo ou à Montreux. Donc je pense pas qu'il y ait une très très grosse concurrence avec le public, à moins qu'on soit vraiment à une dizaine de kilomètres, ce qui peut être le cas de l'Estival et de Rocco's Arena cette année, qui sont vraiment très très proches, et là, il peut y avoir un conflit. Mais sinon, c'est assez rare. Par contre, sur les artistes, oui, il y a un très très gros conflit. C'est un peu le business artistique qui l'a amené, parce que les artistes ont demandé de plus en plus d'argent, les offres ont été de plus en plus importantes, et du coup, c'est vrai que les festivals ont dit, bon, ok, on joue le jeu, on met 100, 200, voire 500, voire 1 million, mais il y a une date en Suisse.
Ah, ils s'offrent les exclusivités.
Donc, il y a des exclusivités qui sont posées, et là, ça devient très compliqué.
Ça a énormément évolué en 25 ans.
Ouais, c'est de la folie. Non, c'est un truc de complètement fou, quoi.
Et c'est justement dans les négociations, dans les prix, que ça a le plus changé.
Ouais, c'est là que ça a le plus changé, c'est vraiment l'offre et la demande. Et puis, il y a beaucoup plus de festivals. C'est vrai que je raconte souvent l'histoire, moi, quand j'étais jeune, de voir mon frangin qui partait à Paléo, au Folk Festival de Nyon, qui était pris un peu comme un extraterrestre marginal, drogué. Enfin, c'était pas une image très positive d'aller dans un festival il y a 25 ou 30 ans en arrière. Nous, quand on a commencé non plus, le Chant du Gros, c'était pas du tout une image positive. Et puis, du coup, aujourd'hui, je pense que la personne qui dirait « tu vas pas à Paléo », les gens diraient « ah bon, pourquoi ?» C'est devenu familial, on y va, c'est normal d'y aller. Donc les festivals ont énormément évolué. Et puis, du coup, il y a énormément de festivals. Il y a beaucoup de frais en infrastructure, en light, en son. Et tous ces frais, il faut les couvrir. La masse salariale également, qui peut être assez importante. On ne va pas les couvrir avec de la découverte. On va les couvrir avec une tête d'affiche. Potentiellement, sur les artistes français, il y a peut-être 10, 15 artistes français qui peuvent remplir plus ou moins un festival. Ces 15 artistes, tous les festivals importants en Suisse les veulent.
Sortie de boîte, c'est une émission économique. On a parlé de produits, de négociations, de concurrence. Parlons un peu ressources humaines maintenant, Gilles-Pierre. On va retourner au Noirmont. Jean-Michel est passé hier pour rencontrer des bénévoles qui s'agitent en ce moment sur le site pour que tout soit prêt. Il en a notamment croisé un à qui il a demandé pourquoi il était là.
Sortie de boîte.
J'ai plus de travail. Et puis, j'ai décidé de venir bosser ici pendant les infrastructures du Chant du Gros.
Du coup, c'est aussi une expérience
enrichissant, oui. Tant qu'ancien directeur d'une boîte horlogère, c'est vrai que ça change de travail. Ouais.
Ah, vous avez été directeur?
J'étais directeur jusqu'à fin juillet, oui. D'entreprise à chaud de fond. Puis, voilà. Ouais. Licencié économique. Alors plutôt que de rien faire à la maison, je suis venu ici pour...
Quand on passe de la direction d'une entreprise à bénévole au Chant du Gros,
c'est sympa aussi, c'est enrichissant, mais... de connaître de faire du travail manuel déjà, ouais. Pour moi, qui n'était pas trop mon truc.
Ah oui, d'accord. C'est vrai que c'est... Et le matin, on se réveille dans quel état d'esprit quand
c'est surtout arrive. Le soir à 9h, je suis au dodo, puis je suis mort.
Sortie de boîte.
Il y a d'autres bénévoles qui ont été interrogés. Vous retrouvez le reportage complet sur notre site internet. Gilles-Pierre, directeur d'une entreprise horlogère, c'est pas tellement le stéréotype d'un bénévole du Chant du Gros, en tout cas, comme on pourrait l'imaginer.
Non, c'est vrai. Mais c'est ce qui fait un peu la beauté du festival. Outre sur l'aspect des bénévoles, mais si on prend le festival en règle générale, on vient vivre et partager un bon moment de musique. Et puis, je trouve toujours assez fou de voir un chômeur, un SDF, un directeur de banque, un ministre jurassien, voire même un conseiller fédéral, boire un verre, partager un bon moment, et puis avec des enfants, avec des...
Se réunir.
Ouais, se réunir et partager ce moment. Et puis c'est un petit peu ça, la magie du Chant du Gros.
Le bénévolat, par définition, ce sont des gens qu'on ne paye pas, du coup on ne peut pas vraiment leur imposer des choses. Comment vous gérez, vous, ça?
En fait, il faut qu'il y ait de toute façon une super ambiance, déjà. Alors on essaie d'amener cette ambiance avec un chef qui est très très cool, qui sait prendre les gens, qui va pas... justement, c'est un travail bénévole, donc on va pas leur donner des objectifs le matin en leur disant on va commencer ça, puis ça doit être fini. Donc il faut qu'il y ait une certaine souplesse et une certaine rigueur, donc faut trouver le juste milieu. Et puis après, c'est vrai qu'il y a toute une ambiance qui se fait avec une équipe en cuisine qui est formidable, qui prépare un petit déjeuner, qui prépare le dîner, les 4 heures, le souper, on se retrouve, on boit un coup. C'est une famille, quoi. Ça devient vraiment une famille. Et puis les gens qui viennent à l'infrastructure découvrent un univers fantastique, et puis rencontrent des gens justement qui... un gars qui peut être directeur, comme un gars qui peut être chômeur de longue durée, comme un médecin au CHUV, tout à coup, qui a décidé de venir donner un petit coup de main pour faire un plancher.
On dit souvent que les bénévoles sont des gens extrêmement motivés, justement parce qu'ils travaillent pour autre chose que pour l'argent. Vous ressentez ça ?
Oui, on ressent ça, et puis surtout, on est dans une petite région, et puis la plupart des gens s'identifient vraiment au festival. Donc ils sont fiers de faire ce festival. On le voit dans les étudiants qui viennent avec leurs parents, qui leur disent « Voilà, attends, moi j'ai construit ça là, on a fait ci comme ça, pourquoi on a fait ça ?» Enfin, et on sent que, ben voilà, ils sont fiers de monter ce projet et de voir tout à coup 15 000 personnes avec le sourire.
Ils se l'approprient.
Ils se l'approprient complètement.
Ouais. Ouais. S'il y a quand même un gros budget, le Chant du Gros, malgré ça, ça ne pourrait pas tourner sans bénévoles ?
Ah non, c'est impossible. Il n'y a aucun festival en Suisse qui pourrait tourner sans bénévoles. Ou alors, il faudrait vraiment doubler, tripler le prix d'entrée et trouver des mécènes énormes. Alors je pense que c'est jouable, mais alors là, il y a tout qui change, et puis du coup, c'est ce qu'on parlait avant, un mécène nous quitte, le festival est mort.
Ouais, donc les bénévoles jouent un rôle essentiel. On arrive gentiment au terme de cette émission, Gilles-Pierre, juste le temps d'accueillir Marie-Lise, qui réalise chaque semaine notre chronique horlogère. Ce soir, elle a mis son costume de Julien Lepers.
Pile à l'heure.
Aujourd'hui, dans Pile à l'heure, nous sommes d'humeur joueuse. Prêt ? Qui suis-je ? Top ! Je suis une substance vitrifiable composée de sable siliceux additionné d'oxyde qui lui donne une gamme très étendue de couleurs propres à la décoration de surfaces métalliques, or, argent ou cuivre notamment.
C'est la mer noire.
Non, top. Je suis de différents types, translucide, je suis perméable à la lumière comme c'est le cas pour mes frères opalescents qui donnent un voile laiteux recherché dans certains décors.
C'est la mer noire.
Ah non, top. Je suis cloisonné quand le dessin du sujet est formé de minces rubans métalliques fixés sur la surface à travailler que je suis introduit dans les alvéoles ainsi formés et passé au feu. Après un adoucissage ou polissage, le fil métallique fait ressortir le dessin. Je suis...
C'est la mer noire.
Mais non. On m'attribue le terme de champ levé quand une surface est creusée au burin dans le champ d'une plaque de métal pour me recevoir.
C'est la mer noire.
Toujours pas. Top, on peut faire de la peinture sur moi comme à Limoges au XVIe siècle. Une peinture qui utilise des couleurs vitrifiables, je suis... L'émail.
3 points, Marie.
La peinture sur émail des boîtes et cadrans de montres a été inventée en 1632 par le français Jean Toutain. Les décors en émail étaient bien rares dans l'horlogerie il y a encore quelques années, mais ils fleurissent à nouveau sur certaines montres. Cet art ancestral est réputé difficile à maîtriser. Il faut de longues années d'apprentissage pour devenir un peintre miniature sur émail digne de ce nom. Il existe désormais des formations pour devenir émailleur. Vous ne serez pas étonné si je vous dis que le métier requiert de la minutie, le sens des couleurs, la maîtrise du dessin et bien sûr de l'intérêt pour l'horlogerie.
À l'heure.
Merci Marie-Lise Lepers. C'est l'heure de vous libérer, Gilles-Pierre. Il vous reste quoi à faire au Noirmont, là, à 3 semaines de l'ouverture du festival ? 2-3 trucs ?
2-3 trucs, ouais, exactement. Ouais.
On sera évidemment présent lors du Chant du Gros du 7 au 10 septembre avec des émissions spéciales, des interviews d'artistes et autres reportages. Donc, je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt, Gilles-Pierre.
À bientôt, Cédric.
Merci d'avoir été avec nous ce soir. Si vous avez manqué un morceau de cette émission, allez faire un tour sur notre site internet d'ici quelques minutes. Elle est en intégralité. Semaine prochaine, même heure, même endroit. Sortie de boîte revient avec le directeur de la Chambre neuchâteloise de commerce et d'industrie, Florian Nemeth, pour prendre le pouls de l'économie neuchâteloise et des entreprises qui la composent. Très bonne soirée.
Sortie de boîte.